Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour Patrick Cohen.
Vous êtes en ligne de Bordeaux, vous teniez réunion hier soir, hein, c'est bien ça hein.
Absolument.
L'une des propositions phares de votre campagne, c'était un revenu universel d'existence de 750 euros par mois pour toute personne majeure. Et puis là, changement de ligne, relevé par lemonde.fr, votre proposition a été largement réécrite, rabotée même, à en lire ce qu'il y a sur votre site web. Qu'est-ce qu'il en reste précisément, Benoît Hamon ?
D'abord, je conteste cela. J'ai toujours dit, même à votre antenne, systématiquement, méthodiquement, que l'objectif qui était celui d'un revenu universel, c'était un objectif, une cible, 750 euros pour toutes les personnes, mais qu'il était parfaitement irréalisable. Imaginez que du jour au lendemain, en 2018, elle puisse être mise en œuvre. Et si on écoute ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit, je n'ai jamais dit que du jour au lendemain, cette mesure pourrait être mise en œuvre. Et
absolument, c'était sur 5 ans, oui. Sauf que là, voilà, le chiffre ne figure plus dans...
Mais j'ai étayé, mais écoutez-moi un petit peu, Patrick Cohen, comme je ne vous écoute pas, c'est difficile de précéder vos interventions.
Je vous écoute
mais
parfaitement.
Ce que je vous propose, et ce sur quoi je m'engage, puisque pourquoi d'abord le faisons-nous ? Moi j'anticipe, là on ne peut ne pas être d'accord avec moi, mais j'anticipe que la révolution numérique va raréfier le travail, qu'il y aura un impact sous la forme de destruction d'emplois et qu'il nous faut nous préparer à cela, de façon à ce que ce partage du travail ne soit pas subi, mais maîtrisé. L'instrument que je propose pour maîtriser cette transition, il est double, la réduction du temps de travail qui devra être encouragée par des baisses de cotisations sociales patronale en contrepartie d'une réduction du temps de travail et de création d'emplois, et d'autre part un revenu universel d'existence, c'est-à-dire le moyen donné à terme aux salariés de pouvoir réduire eux-mêmes leur temps de travail, décider de choisir de passer d'un temps plein à un temps partiel dans une entreprise de l'agroalimentaire quand on est salarié des services, pour pouvoir sans perte de pouvoir d'achat se consacrer à autre chose qu'un travail parfois pénible, parce que même si on peut s'épanouir par le travail, ils sont des millions de nos compatriotes aujourd'hui à être surmenés ou à ne pas à être contents de travailler mais à ne pas trouver beaucoup de plaisir au travail qu'ils ont. Donc, je propose ce complément de revenus.
Là pour tous, vous gardez l'objectif, oui, même objectif, tous les Français de plus de 18 ans sans condition de ressources.
La cible, ce doit être cela. Pour y arriver, je propose une première étape. C'est là-dessus que je demande à être jugé. La première étape, c'est le fait de revaloriser le RSA et de le porter à 600 euros, de le distribuer automatiquement. Je rappelle aujourd'hui que un tiers des personnes pauvres qui sont éligibles à cette mesure n'en bénéficient pas, et je trouve que c'est incroyable qu'on accepte de faire des économies sur les pauvres. Donc je propose que la mesure soit automatisée et que les premiers à bénéficier à côté donc des personnes pauvres de la première tranche du revenu universel d'existence, ce soient les 18-25 ans, parce qu'ils sont finalement les premiers, la nouvelle génération a expérimenté cette nouvelle relation au travail qui est faite de quoi ? De contrats courts, de travail salarié, de travail indépendant, d'auto-entrepreneuriat, bref, d'une forme de rapport au travail plus précaire et qui justifie à mes yeux que l'on accompagne cette insertion sociale et professionnelle de manière beaucoup plus digne que nous ne le faisons aujourd'hui. Puis, ce que nous ferons, c'est quoi ? C'est que nous consacrerons, avec les partenaires sociaux, avec l'ensemble des citoyens français, un moment, un temps, j'ai parlé d'une conférence citoyenne, à penser ce que devra être le périmètre du revenu universel d'existence, ce qu'il couvre comme allocation existante et ce qu'il ne couvre pas, à construire les financements qui seront largement financés pour partie par l'impôt sur le revenu, pour la bonne et simple raison que si vous gagnez 1300 euros par mois, que vous rajoutez 600 euros, pour beaucoup de gens, ils changeront de tranche, dès lors qu'en plus on rend l'impôt sur le revenu plus progressif, et donc l'impôt sur le revenu contribuera à financer, pour en tout cas ceux qui gagnent le plus, le revenu universel d'existence de ceux qui gagnent le moins. C'est pour ça que la caricature qui est faite de dire vous le donnez à Madame Bettencourt, mais Madame Bettencourt, nous allons lui en prendre 1000, 10 000, je ne sais, revenu universel d'existence pour pouvoir payer cette prestation à tous les Français. Donc arrêtons cette caricature-là, sauf à ce que ceux qui dénoncent l'universalité de la mesure proposent que M. Bolloré ou Madame Bettencourt ne soient pas remboursés de leur grippe de la même manière que vous. Mmh. Ce qui est aujourd'hui le cas, et à ce moment-là, mettons tout sous condition de ressources et nous n'aurons plus de solidarité du tout.
Est-ce que vous convenez, Benoît Hamon, que vous mettez un peu plus de prudence dans votre proposition, dans votre façon d'aller vers cet objectif, et qu'on n'est loin du revenu décent proposé par Manuel Valls.
Non, si, ça n'a rien à voir. Manuel Valls propose-t-il que tous les 18-25 ans, sans aucune condition de ressources, perçoivent les 600 euros que je propose ? Non, on n'en est pas. Ça n'a pas du tout la même vocation.
Il souhaite, lui, appliquer une condition de ressources.
Mais je veux assumer un point que vous venez d'évoquer. Je souhaite assumer le fait que je fixe un cap. Je donne des clés pour y arriver, budgétaire, fiscal, mais aussi démocratique à travers des formes originales de concertation dès lors que nous parlons là d'un nouveau pilier de la protection sociale. J'entends ce qui se dit, les inquiétudes que ça lève, mais je veux maintenir ce cap. J'assume de dire que c'est un objectif, une cible, et que oui, aujourd'hui, par rapport à cette cible, nous avons à fabriquer des solutions qui ne, pardon de le dire, mais qui vont bouleverser notre rapport au travail et dont je souhaite qu'un certain nombre d'effets pervers puissent être mesurés. L'impact sur les salaires sera-t-il positif ou négatif? C'est quand même pas une question neutre et je pense que selon les secteurs, notamment dans les secteurs où l'emploi est peu qualifié, l'impact sur les salaires peut être positif, d'autres autres plus négatif là où il y a beaucoup, beaucoup de chômage. Donc ces questions-là sont des questions importantes et il me semble logique que l'on s'engage sur une première étape, que l'on dise comment on va bâtir la seconde étape et qu'on fixe un objectif. Moi, les projets ultra-marketés, formatés, qui sont soi-disant chiffrés à la virgule près, dont on constate qu'en général, une fois mis en œuvre, ça ne marche pas. Moi, je préfère m'engager sur des orientations politiques et dire comment je veux y arriver et accepter qu'il y aura des rendez-vous politiques, démocratiques, de concertation arriver vers cet objectif.
Outils démocratiques, avez-vous dit Benoît Hamon. On peut parler du 49-3 citoyen que vous souhaitez instaurer et qui a fait l'objet là aussi de critiques sur le thème 500 000 électeurs, 500 000 citoyens qui peuvent bloquer un projet de loi. Bah, c'est le pouvoir donné à tous les lobbies, enfin un lobby de mobiliser un si grand nombre de personnes et de pouvoir bloquer par exemple la loi sur le mariage pour tous ou en d'autres temps l'abolition de la peine de mort. Que répondez-vous? Voit cela.
D'abord, je trouve que c'est une critique très sérieuse. Et si je peux faire une parenthèse, Manuel Valls qui disait qu'il était lui visé, moi ce sont mes propositions qui sont visées dans cette campagne et je me réjouis aujourd'hui d'être que mes propositions soient en débat. C'est une très bonne critique parce qu'elle voudrait, elle pointe ce qui pourrait être une angoisse, que je comprends, qu'un texte passé par le Parlement puisse être bloqué au motif que des lobbies s'organiseraient. D'abord, 450 000 signatures, on ne les obtient pas facilement, contrairement à ce que tous les apprentis sorciers sont en train de nous dire, première chose, et j'observe que sur le site change.org, ce sont sur les Panama Papers, sur des questions comme la loi travail, que des plus grandes pétitions ont été construites. Ce que je propose, sur le modèle de ce qui se fait en Suisse ou en Italie, c'est que sur ces 1% de corps électoral qui pourraient obtenir qu'un texte voté à l'Assemblée nationale passe forcément par référendum. Nous puissions y ajouter, ce qui me paraît logique, un critère de représentativité régionale, qu'on puisse dire 450 000 signatures d'au moins la moitié des départements, que de surcroît ce référendum, pour être valide, devra réunir un plancher de participation minimum. Moi, mon objectif, il n'est pas de bloquer qui que ce soit, il est de donner de la légitimité aux choix politiques dans une démocratie que je juge immature, dès lors qu'elle n'offre aucun contre-pouvoir aux citoyens. Sommes-nous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il n'y a pas assez de démocratie en France, qu'il faut la faire respirer, qu'une république dans laquelle on donne les pleins pouvoirs à un président de la République et les citoyens deviennent invisibles pendant 5 ans, ça n'est pas une démocratie moderne? Eh bien moi je réfléchis à la manière d'organiser des contre-pouvoirs et je dis à ceux qui disent les élites sont en avance en matière de progrès sur les citoyens, non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Par exemple, aujourd'hui, sur la fin de vie et le droit à mourir dans la dignité, nos concitoyens sont en avance sur les élites. Et c'est une des raisons pour lesquelles, au regard des nombreux témoignages que j'ai entendus sur la question du suicide assisté, de l'euthanasie, du droit à mourir dans la dignité, j'irai plus loin que ce que nous avons fait en matière de loi Claeys-Leonetti, preuve que la société est souvent en avance, contrairement à ce qu'on dit sur ses élites.
Donc vous êtes prêt à faire bouger les curseurs aussi bien sur le 49-3 citoyen que sur le revenu universel.
Patrick Cohen, moi, une campagne électorale, ça sert à quoi? À donner un cap, surtout au présidentiel. Moi, j'écoute les critiques qui me sont faites, et si elles me permettent de densifier, d'améliorer les propositions que je fais, eh bien, je le fais avec plaisir. Je ne change pas de cap. C'est ça aussi, je pense, participer à une campagne moderne, c'est ne pas considérer que la critique de vos rivaux est forcément une critique pour vous abattre. Elle peut aussi vous permettre d'améliorer vos propositions.
Fabien, c'est le premier auditeur que nous prenons. Fabien nous appelle de l'Isère. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà, je voulais poser deux questions à Monsieur Hamon. Est-ce que vous pensez que la primaire de la gauche va rassembler plus de 500 000, allez, je vais être gentil avec vous, plus de 1 million de personnes?
Et si, soyez encore plus gentils.
Et si vous rassemblez trop peu de monde, est-ce que vous vous rallieriez pas à Monsieur Mélenchon? Oui, aussi, mais poser la question à M. Valls. Et oui, puis vous parlez de changement dans la République, et on nous propose quand même de l'autre côté une assemblée constituante, ce qui était, voilà, les problèmes constituants sont résolus.
Merci Fabien, merci à vous. Benoît Hamon, l'assemblée constituante, et puis le poids, la force électorale de la primaire à venir pour les deux prochains dimanches.
Bien, merci monsieur, merci Fabien pour cette question. Moi aussi je suis favorable à une 6e République, je pense qu'il faut qu'on en finisse avec une 5e République qui est arrivée, qui est à bout de souffle à mes yeux aujourd'hui. Je crois que c'est Habermas qui disait qu'il y a toujours un problème de légitimité démocratique quand le cercle de ceux qui décident ne recouvre pas le cercle de ceux qui subissent les décisions. Nous y sommes et nous le voyons aujourd'hui dans la fracture qui existe entre les citoyens et leurs dirigeants. Il faut donc que dans la fabrication de la loi, le contrôle du Parlement comme de l'exécutif, le cumul des mandats, on puisse avancer. Moi, je veux donner en exemple la loi numérique d'Axel Lemaire. C'est le bon exemple, inspiré notamment des démocraties scandinaves, de la façon dont aujourd'hui on doit essayer de fabriquer une loi avec, à l'occurrence, des internautes citoyens, mais c'est-à-dire avec les citoyens. Bon, mais on y reviendra sur le rassemblement de la gauche. J'entends la question en creux de Fabien. En clair, il a donné la clé. S'il y a peu de participants à cette primaire, la légitimité démocratique de celui qui sera issu de ce scrutin sera faible. S'il y a beaucoup de participants, elle sera indiscutable et beaucoup plus forte que les candidatures qui viennent d'autres appareils à gauche. Et je le dis comme ça, mais aujourd'hui, nous avons des candidats qui sont les candidats d'appareils qu'ils ont construits eux-mêmes autour d'eux-mêmes. Et là, nous aurons une primaire qui sera celle de citoyens. Alors on peut toujours dire, comme j'entends Jean-Luc Mélenchon le dire, que c'est celle du PS et du PRG. Ce sont celles des citoyens de gauche et qui viennent de partout. Parce qu'il y aura des citoyens écologistes, de la gauche radicale, du Parti socialiste, de la gauche modérée, peut-être même quelques citoyens de droite qui voteront. Et qu'on ne peut pas mépriser comme ça un scrutin démocratique. Mmh. Donc s'ils sont nombreux, ça donnera de la force.
C'est combien nombreux, Benoît Hamon ?
Je pense qu'il faut approcher ou tourner le cap des 2 millions doit être un cap qu'on doit se fixer. Mmh. En deçà, ce serait plus faible. Au-delà, évidemment, ça donnerait beaucoup de force. Je sais que je suis ambitieux en disant cela, qu'il y a beaucoup de gens qui parient sur une faible participation. J'espère, en tout cas par les idées que j'ai mises dans cette primaire, que j'aurais donné envie au moins de voter, même contre mes propositions. Je le dis aux citoyens même si vous ne croyez pas dans le modèle que je propose ou l'option que je propose, venez voter, même pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec cela.
Une petite demande de précision de Thomas Legrand.
Ça veut dire que après la
incroyable,
primaire,
j'appelle à voter contre moi.
Oui, c'est exceptionnel.
Notez-le, Monsieur Legrand.
Je le note. Après la primaire, le candidat, quel qu'il soit, devra de toute façon s'adresser à Jean-Luc Mélenchon et à Emmanuel Macron et essayer de faire en sorte et de faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul de ces quatre candidats. Ou au moins ce deux, parce que Jean-Luc Mélenchon a déjà dit que, d'ailleurs, Emmanuel Macron aussi, d'ailleurs.
Oui, les deux ont dit qu'ils iraient au bout.
Oui, voilà. Mais c'est donc ça, c'est le fait du prince. C'est très 5e République, hein. C'est le caractère très providentiel des candidatures.
Nous y sommes encore, en 5e République.
Oui, mais échappé. J'observe que ceux qui veulent abattre la 5e République sont très 5e République, très en majesté. Moi, écoutez, je n'ai pas été ni touché par la grâce, ni par la vérité, ni par je ne sais quelle providence. Je n'aspire pas à dire autre chose que sans intelligence collective et sans unité de la gauche, il y aura Fillon-Le Pen au second tour. Donc si nous ne faisons pas l'effort, les uns les autres, de mettre sur la table les questions autour desquelles la gauche pourrait au moins s'entendre, ce qui pourrait être l'ébauche d'une vision commune, je ne vais pas oser le mot de programme commun, mais d'une vision commune sur la transition écologique, sur les grandes questions de santé publique, sur l'avenir de notre protection sociale, sur le rapport au travail, sur la coopération européenne. Est-ce qu'on croit encore à gauche que le projet européen est une locomotive pour l'épanouissement, l'émancipation des citoyens? Moi je le crois, et je le dis par exemple. Je pense que si on regarde les propositions qui ont été mises sur la table, le traité de l'énergie que propose Jacques Delors, c'est-à-dire de repartir autour de la question énergétique et de la transition écologique comme un moyen de permettre aux zones les plus défavorisées de se développer, aux Européens de coopérer, d'assurer la sécurité de leur approvisionnement pour ceux qui ne veulent pas dépendre du gaz russe.
Vous êtes plus proche de M. Macron que M. Mélenchon, donc? À vous entendre.
Sur cette question-là, mais moi je suis favorable à la réduction du temps de travail. Je ne suis pas favorable à la baisse de la fiscalité
donc
du capital
et
à l'augmentation
des
fiscalités. Oui, mais non, ça s'appelle la gauche, monsieur Legrand. Oui, et il ne vous a pas échappé qu'au moment où monsieur Marché, monsieur Mitterrand et monsieur Rocard décidaient de construire des programmes en commun avec monsieur Chevènement, ils ne disaient pas exactement la même chose.
Non, mais 90 jours avant, c'est compliqué. Mais bon,
Tout ça est un processus. Écoutez, moi, il y a aujourd'hui dans la société en fait une vraie ligne de clivage entre les pessimistes et les optimistes. Moi, je ne suis pas un optimiste béat, mais en tout cas, j'ai l'optimisme de la volonté.
Merci beaucoup Benoît Hamon d'avoir été en ligne avec nous depuis Bordeaux ce matin. Merci
Monsieur Cohen.
Merci pour cette expression et ces précisions. Et